C'est la chose la plus stupéfiante que j'ai jamais vue. Je ne peux pas imaginer une crémation si complète, sans plus de dommages à l'appartement lui-même. Je n'ai jamais vu non plus de crâne humain aussi réduit par une chaleur intense. Docteur Wilton Krogman, anthropologue américain.
Éteignez les lumières. Fermez votre porte. Décrochez le téléphone. Nuit blanche, couleur 3.
Vos armes peuvent se retourner contre vous.
Nous avons à déplorer dans les 10 derniers jours des décès accidentels causés par le feu.
Il ne va pas t'arriver la même chose que tes parents.
Une tristesse se vient toujours de l'estomac.
Non, pitié, non. Ne me laissez pas souffrir comme ça.
Oh, j'ai peur, je ne veux pas devenir comme ça. Ne m'abandonne pas.
Regarde-moi. Je brûle.
Bonjour. Bonsoir. Bienvenue dans Nuit Blanche, le podcast. Tous les soirs de pleine lune, pour ceux et celles qui préfèrent frémir que dormir, une histoire vraie. Une histoire vraiment extraordinaire. Une histoire qui pourrait un jour, ou peut-être une nuit, vous arriver. Parce qu'avec l'inexpliqué, on ne sait jamais. Une histoire d'hommes, de femmes, et même d'enfants, dont le corps est subitement dévoré par le feu, puis réduit à l'état de cendre. Cette aberration physique est l'un des plus grands mystères de l'histoire de l'humanité. Un mystère que même notre science moderne n'a pas totalement et définitivement élucidé. Et lorsque les hommes ne savent pas, ne maîtrisent pas, n'expliquent pas, c'est la peur et l'interdit qui prennent le pas. Cet étrange phénomène de torche humaine porte un nom. C'est la combustion spontanée. Nous allons vous raconter plusieurs récits de personnes ayant connu une fin tragique et terrifiante dans les flammes d'un enfer qui n'est pas ailleurs, mais bel et bien sur Terre. Au micro, deux gaz incandescents, Michael Marquet et Anne Flamand. À la réalisation, un pyromane du son, Valère Veilla.
Alors, c'est vous le pyromane? C'est un très vilain défaut, vous savez.
Spontanée.
C'est ce qu'un des journalistes a dit. CHS. C'est une chose très fréquente. Mais toi, ça va? Qu'est-ce que tu as à ton doigt?
Il s'est enflammé. Et deux êtres humains sont morts. Deux êtres humains que je connais. Brûlés vifs. Et aujourd'hui, mon pouce s'est enflammé tout à coup.
On parle de combustion spontanée quand un matériau prend feu sans avoir été en contact direct avec une flamme. Ça peut se produire pour tout type de matériaux à différentes températures. Le papier, par exemple, s'enflamme à une température de 233 degrés et l'huile végétale à 450 degrés. Le phénomène de combustion spontanée est souvent observé pendant des incendies. Dans un bâtiment en feu, la chaleur peut atteindre des niveaux si élevés que des objets s'enflamment, même s'ils ne se trouvent pas à proximité immédiate des flammes. Les choses sont différentes quand on évoque les combustions humaines spontanées. Le fait de savoir si un corps humain peut prendre feu sans raison apparente est largement soumis à controverse. Loin d'être un événement aisément observable et démontré, l'existence des combustions humaines spontanées s'appuie sur un certain nombre de cas concrets et de témoignages.
Michel, appelle l'hôpital.
Des flammes s'échappaient de son bras. Sauvez-le!
Il y a d'abord ces situations où une personne vivante prend feu sans cause apparente. Comme ce médecin texan qui sent ce qu'il pense être une piqûre de guêpe et voit soudain des flammes sortir de sa jambe. Ou cette épouse anglaise qui étouffe les flammes sur l'épaule de son mari. Les témoignages ne sont pas très nombreux, mais ils existent. À chaque fois, les personnes en question se trouvaient loin de toute source de chaleur ou d'ignition et elles n'étaient pas couvertes de produits ou de matières inflammables. Bien qu'inquiétant, le phénomène pourrait rester anecdotique si on ne le suspectait pas de provoquer parfois la mort du sujet.
Le corps humain, vous voyez, est la plus complexe chambre de combustion à allumage électrique existante au monde.
Il existe, en effet, des cas de décès par brûlure qui laissent les professionnels du feu perplexes. On retrouve des corps humains, presque entièrement carbonisés, dans des environnements quasiment intacts. Dans ce genre d'affaires, plusieurs éléments défient la rationalité. L'état des corps d'abord. Certaines parties du corps sont intégralement détruites, réduites en cendres, alors que d'autres sont étrangement préservées. Souvent, dans les cas supposés de combustion humaine spontanée, il ne reste plus rien de la poitrine, du ventre, du bassin ou des cuisses de la victime. Les bras et la tête sont retrouvés calcinés quand ils n'ont pas simplement disparu. Mais il n'est pas rare de retrouver des jambes, des pieds jusqu'aux mollets, parfaitement indemne, à côté de restes carbonisés.
Allez, regardez partout, vous avez morceaux dans les sacs, et même plus sur les rails, les gars, regardez bien où vous marchez, là. J'ai une jambe.
Chez certaines victimes, ces mêmes pieds étaient encore enveloppés de chaussettes et de chaussures en parfait état, alors qu'elles sont composées de matériaux inflammables. Certains brûlés sont même retrouvés encore vêtus de leurs vêtements, à peine roussis, comme si le feu avait consumé le corps de la victime de l'intérieur. Autre élément étrange, il arrive fréquemment dans ce genre d'affaires qu'on ne puisse pas déterminer l'origine du feu. Il n'y a pas d'incendie à proprement parler qui aurait détruit tout un appartement ou une maison, causant la mort de ses occupants. Au contraire, dans les cas de combustion humaine spontanée, le lieu où on retrouve le cadavre a, la plupart du temps, subi très peu de dégâts. Le feu semble avoir été circonscrit à la dépouille et à son environnement immédiat. De nombreuses victimes ont été retrouvées dans leur lit ou allongées près de la cheminée, et le matelas ou le tapis sur lequel reposaient les restes de leur corps était à peine noirci par la chaleur. Or, depuis qu'on utilise des fours crématoires pour incinérer nos morts, on sait qu'il faut de longues heures à de très hautes températures pour faire brûler un corps humain. Et même dans ces conditions, les os sont quasiment impossibles à faire disparaître. Le squelette des défunts est encore reconnaissable après la crémation, et il faut l'intervention d'une autre machine, une broyeuse, pour les réduire en poussière.
Qui que ce soit, il a été réduit en cendres très rapidement.
Alors, rien d'autre n'a brûlé ?
Non, rien d'autre.
Comment se fait-il alors que des corps puissent être presque intégralement réduits en cendres sans que tout ce qui se trouve autour n'ait pris feu ? Comment expliquer que tout est disparu, même les os, alors que ce résultat est impossible à atteindre dans des fours crématoires? Enfin, dans les cas supposés de combustion spontanée, la police ne retrouve pas de preuves d'agression, de lutte ou d'indice d'un acte criminel. Les combustions humaines spontanées sont donc une hypothèse destinée à expliquer des morts apparemment incompréhensibles une fois que toutes les autres pistes ont été écartées. Une explication qui n'en est pas vraiment une. Comment ? En effet, un corps humain pourrait-il se consumer intégralement alors qu'il est composé de 60 à 85% d'eau? Si ce mystère n'a toujours pas été résolu, c'est peut-être à cause de la personnalité des victimes.
On sait que notre victime pesait approximativement 115 kilos.
Oui, mais d'après le perronnier, il mesurait 1,65 m.
1,65 m, 115 kilos, c'est déjà pas mal.
Ce sont en général des personnes âgées, le plus souvent des femmes. La plupart sont en surpoids, elles vivent généralement seules, dans une situation d'isolement social. Pendant longtemps, on a aussi pensé que les cas de combustion humaine spontanée étaient une conséquence de l'alcoolisme. On sait aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Reste que la plupart des cas concernent des personnes dont on ne se préoccupe pas et qui ne manquent pas à grand monde quand elles disparaissent, ce qui explique que le phénomène n'intéresse que peu la communauté scientifique.
Les gens ne se transforment pas en torches, ça n'existe pas.
Imaginez que ça existe et qu'on vient de le découvrir.
Eh ben, on n'est pas aussi moche, alors restez avec moi, d'accord ?
Récemment, on a vu la combustion humaine spontanée être utilisée comme un ressort narratif dans des séries télé à succès. Elle a été évoquée dans des épisodes de Bones, des Experts ou encore de X-Files. Des séries cataloguées dans le genre fantastique, en accord avec le statut de pseudo-science qu'on attribue actuellement au phénomène. Pourtant, ça n'a pas toujours été comme ça. À l'époque de la Renaissance, on prend ce genre d'événement très au sérieux.
Eh bien, j'ai vu des feux monter des escaliers, j'en ai vu rebondir. Le feu est du génie de temps à autre. C'est une sorte de démon poétique, on dirait qu'il est doué de raison. Mais je ne l'ai encore jamais vu défier les lois de la physique. On perce vite ses secrets. Vous avez là une enquête tout à fait excitante.
La combustion humaine spontanée n'est pas, contrairement à ce que l'on pourrait penser, un phénomène apparu spontanément il y a quelques dizaines d'années. Il est déjà mentionné au XVIe siècle avec un certain chevalier, Polonius Vorstius, qui aurait pris subitement feu à Milan. Hélas, ces faits sont aujourd'hui difficilement vérifiables. Au siècle suivant, c'est un certain Thomas Bartholin qui mentionne l'existence de ce phénomène. Thomas Bartholin est un médecin, mathématicien et théologien danois né en 1616 à Copenhague. En 1673, il relate dans sa revue médicale intitulée Acta Medica et Philosophica Afniensia un cas de combustion humaine spontanée. La victime est une femme parisienne, une ivrogne solitaire, sûrement consumée par son péché alcoolisé et donc hautement inflammable. Elle brûla entièrement sur sa paillasse, à l'exception de sa tête et de ses doigts. Le fait est d'ailleurs rapporté par Pierre-Aimé Lhère, qui, en 1800, publia la première étude approfondie sur le sujet de la combustion humaine spontanée.
Le démon a engendré cette immonde abomination. Ceux qui aident le démon doivent être purifiés par les flammes qui les ont engendrées.
On pense, à l'époque de Louis XIV, que c'est un châtiment divin qui punit de pauvres âmes égarées. Surtout des femmes, elles qui sont si brûlantes de désir, animées d'un feu intérieur si ardent et impur, que le Tout-Puissant intervient pour les réduire à l'état de cendre. Au XVIIIe siècle, l'ouvrage de référence concernant le sujet est celui du médecin français Jonas Dupont, intitulé « De incendis corporis humani spontaneis ». Publié en 1763, ce rapport complet relate le cas de Nicole Millet. Nous sommes le lundi 19 février 1725. Il va se passer quelque chose d'inexplicable à l'auberge la plus connue de la ville de Reims, le Lion d'Or. Le propriétaire, Jean Millet, a ce soir-là le pas lourd et les yeux cernés. Les clients ont été nombreux en ce lundi de Pentecôte. Et demain, c'est la grande foire de la région. Il y aura encore de nombreuses bouches à nourrir et des verres à remplir. Il est temps pour lui d'aller se coucher. C'est sa femme Nicole Millet qui servira encore pendant une petite demi-heure les derniers clients éméchés, pendant que les domestiques débarrassent les tables crasseuses du fond de la salle. Petit à petit, l'auberge se vide, puis tombe dans un profond sommeil. Monsieur Millet est un homme heureux en affaires, mais malheureux en amour. Sa jolie petite femme est devenue au fil des années une alcoolique invétérée. Si elle devait payer tout ce qu'elle consomme, elle serait sans nul doute le meilleur client de tout l'établissement. Son corps flasque, son nez et ses joues rouges, son haleine de barrique de vin, son langage grossier, ses manières de poissonnière plongent son mari dans un profond désarroi.
Pour la torture mentale, elle est géniale.
Oui, elle sait parfaitement quel pouvoir elle a sur toi et elle en profite pour te faire marcher sur le feu.
Elle m'a déjà brûlé.
C'est lui qui tient seul l'auberge à bout de bras, pendant que madame tient sa bouteille d'eau de vie à la main, dès le petit matin. Il en vient même à penser qu'il pourrait peut-être un jour la supprimer. C'est une pensée qui le traverse presque chaque soir, avant de fermer les yeux. Mais il a trop peur d'elle. Tous les Rémois sont au courant des mauvais traitements qu'il subit. Mais on ne peut rien faire contre l'ogresse du Lion d'Or. Millet, épuisé, s'endort. Mardi 20 février 1725. Il est 2h du matin lorsque Jean Millet se réveille en sursaut. Une forte odeur de brûlé remplit la pièce. Il sort précipitamment de sa chambre, frappe à toutes les portes de l'étage en criant « Puis il dévale les escaliers, suivi d'une cohorte de clients et de domestiques, aux yeux mi-clos et à la chevelure hirsute. Dans la panique, on renverse des tables et des chaises. Puis, tout le monde se fige devant une scène surréaliste, incompréhensible. Ce n'est pas l'auberge qui a pris feu, mais la pocharde qui est à présent à l'état de cendre fumante. Un morceau de crâne, de cuisses bien épaisses, tout à fait reconnaissables, et quelques vertèbres. C'est tout ce qu'il reste de Nicole Millet. Son mari, sur le point de défaillir, est rattrapé de justesse par un client nommé Claude-Nicolas Leca, un étudiant en chirurgie de 25 ans, originaire de Blérancourt. Il occupe en permanence une chambre au Lion d'Or depuis le début de ses études à l'école de médecine de Reims.
Quoi ? Regardez ça. Vous croyez toujours que sa femme s'est enflammée toute seule ?
Les théories deviennent des conclusions une fois que toutes les preuves sont réunies. J'attends de voir ce que la prochaine preuve nous dira.
Un lieutenant de police, accompagné de deux gendarmes, arrive sur la scène. Ils faisaient une ronde dans le quartier lorsqu'ils ont entendu des cris en provenance de l'auberge. Les choses sont très simples pour les autorités. Nicole Millet est morte dans d'étranges circonstances. Et le premier suspect dans cette affaire, c'est le mari aux sombres pensées.
Vous êtes allé vous coucher. 10 heures plus tard, vous vous réveillez, vous allez dans le salon et votre femme n'est plus qu'un tas de cendres.
Écoutez, je me tue à vous dire que je ne sais pas ce qui est arrivé à ma femme.
Une fois le décès constaté par un chirurgien du nom de Chrétien, l'aubergiste est arrêté puis jugé. Il a perdu sa femme, il est en train de perdre son auberge et il va sûrement perdre la vie. Le sort s'acharne contre le bon Millet. Il se sait déjà condamné par les citoyens de la ville et la justice. Mais une personne a totalement confiance en lui. Cette personne, c'est le jeune Claude-Nicolas Leca. Il se présente spontanément comme témoin au procès de Millet, raconte la déchéance de madame devenue un monstre alcoolique et assure qu'elle a subi le châtiment divin parce qu'elle a le péché du vice. Sa plaidoirie est si convaincante que le tribunal innocente le prisonnier. Et oui, en plein siècle des Lumières, Dieu a encore son mot à dire dans les affaires des hommes. Cet événement va profondément marquer le jeune étudiant, persuadé qu'il s'agit là d'un cas de combustion humaine spontanée. Idée qu'il développera plus tard dans 2 écrits. Mémoire sur les incendies spontanés de l'économie animale et dans Relation de 3 cas de combustion humaine spontanée. À noter que ces 2 textes ne seront publiés qu'après sa mort, le premier en 1793.
Quoi encore, nous sommes rassemblés pour restaurer l'innocence. Nous brûlons cette sorcière pour triompher du mal.
6 années après le drame du Lion d'Or, la presse rapporte l'étrange mort de la comtesse véronaise Cornelia Bandy. Au petit matin du 4 avril 1731, la comtesse, âgée de 62 ans, est retrouvée dans sa chambre massivement carbonisée. Sans aucun incendie autour de son corps. Depuis cette époque et jusqu'au début du XXe siècle, seuls les cas féminins sont relatés. Les autres sont purement et simplement ignorés. C'est donc pendant toutes ces années la thèse de la femme éthylique qui domine les débats. Les croyants, les superstitieux, pensent que c'est un châtiment de Dieu. Les rationalistes et spécialistes pensent que c'est le breuvage ingéré qui servirait de combustible. Feu diabolique, feu alcoolique, réaction chimique, puissance ésotérique, les avis sont divisés. Ce qui est sûr, c'est que la combustion humaine spontanée exerce un étrange pouvoir de fascination et de répulsion, à tel point que dès le XIXe siècle, la littérature s'est emparée du sujet. Charles Dickens l'évoque dans Bleak House, et Zola dans le docteur Pascal qui fait disparaître l'oncle Macquart dans le brasier infernal de la combustion spontanée. Aujourd'hui, ce sont les scénaristes d'Hollywood qui ravivent la flamme de l'épouvante et de l'inexpliqué.
Il y a eu comme un éclair de lumière verte. Et puis plus rien, il restait plus rien, c'était comme, il restait plus que, qu'une espèce de petit globule vert sur son siège de batterie.
C'était une tache en fait.
Oh non, on aurait dit plutôt une tache qu'un globule vert.
Mais bon, il y a plusieurs douzaines de personnes qui meurent par combustion spontanée tous les ans. Le truc, tu vois, le truc, c'est qu'on n'en parle pas, jamais.
Madame Carpenter est animée d'un mauvais pressentiment en ce matin du lundi 2 juillet 1951. Elle est inquiète pour sa locataire, Mary Reaser, une vieille dame qui habite l'appartement à côté du sien depuis un peu plus d'un mois. Nous sommes à Saint-Pétersbourg, en Floride. Pansy Carpenter est la propriétaire des appartements Alamanda, un complexe cossu de logements meublés qu'elle loue à des personnes aux revenus confortables. C'est bien le cas de Mary Reaser, veuve d'un éminent médecin de Pennsylvanie et récemment émigrée pour se rapprocher de son fils unique, Richard, médecin lui aussi. Mary Reaser est une petite femme de 67 ans, 1m67 pour environ 85 kg. Replète mais énergique, elle est habituellement debout avant l'aube. Elle allume la radio et elle écoute les nouvelles pendant qu'elle prend son petit déjeuner. Pansy, sa logeuse, entend le bulletin d'information de 7 heures depuis chez sa voisine quand elle se lève à son tour. Mais pas ce matin. L'appartement occupé par Mary Reaser est étrangement silencieux. Plus bizarre encore, elle n'a pas répondu au coup de sonnette du facteur qui lui apportait un télégramme. C'est lui d'ailleurs qui a prévenu la propriétaire pour savoir quoi faire de la missive. Alertée par ce comportement inhabituel de la part de sa locataire, Madame Carpenter décide d'en avoir le cœur net. Elle se dirige d'un pas décidé vers la porte de l'appartement de Mary Reaser. Elle frappe, doucement d'abord, puis de plus en plus fort, mais elle n'obtient toujours pas de réponse.
J'ai l'impression qu'il n'y a personne.
Elle décide d'ouvrir la porte. Elle met sa main sur la poignée, mais elle la retire aussitôt. Le bouton est étrangement chaud. La propriétaire est maintenant vraiment inquiète. Elle sent qu'un drame est arrivé. De l'autre côté de la rue, deux peintres commencent leur journée et installent leur matériel sur l'immeuble d'en face. Appelés en renfort, ils pénètrent dans le logement de Mary Reaser. Immédiatement, ils demandent à Pansy Carpenter, restée dehors, d'appeler les pompiers. Quand ils arrivent sur place, la première chose que les soldats du feu perçoivent, c'est une épaisse fumée. Beaucoup de fumée, mais pas de feu. Seule une poutre rougeoie encore un peu au plafond. Elle est rapidement éteinte grâce à une petite pompe à eau portable. Le chef assistant Griffiths traverse la pièce à vivre de l'appartement et il ouvre une fenêtre pour permettre à la fumée de se dissiper. L'appartement de la vieille dame semble à peu près en ordre. Table, chaises, tapis, banquettes, tableaux, tout semble à sa place. Mais tout est très sale. Le plafond est complètement noirci par la fumée et tout ce qui se trouve au-dessus d'une hauteur d'approximativement 1,20 m est recouvert d'une épaisse couche de suie, poisseuse et noirâtre.
Y a quelqu'un ?
Il faut un moment aux observateurs pour se rendre compte qu'il manque quelque chose. Là, au centre du salon, là où se trouvait l'épais fauteuil rembourré où Mary Reaser aimait se reposer, il n'y a plus rien. À la place du fauteuil, du repose-pied qui lui faisait face et de la petite table adjacente, il n'y a plus qu'un épais tas de cendres. Tout est calciné. Et parmi les cendres, intactes, se trouve tout ce qui reste de la veuve, quelques dents, un morceau d'os et un pied gauche, encore vêtu de sa pantoufle de satin noir. Très vite, la police locale est dépêchée sur place. En faisant le tour de l'appartement, elle découvre quelques signes qui témoignent qu'un coup de chaleur a traversé le logement. Les encadrements de quelques interrupteurs ont fondu et au fond, dans la salle de bain, une brosse à dents repose mollement pliée en deux par-dessus le rebord d'un verre. À part ces quelques indices, rien ne laisse penser qu'un incendie ait eu lieu. Il n'y a pas de traces de brûlure et des objets pourtant facilement inflammables sont retrouvés en parfait état. Comme ces deux charlottes en plastique, accrochées à l'arrière de la porte de la salle de bain. Les draps du lit de Marie Reaser sont noircis par la fumée, mais pas brûlés. Les livres, les magazines et les rideaux, tout repose tranquillement à sa place, inaltéré, à l'exception de cette épaisse couche de suie graisseuse qui recouvre tout. Pour tenter de comprendre ce qu'il s'est passé, on reconstitue les dernières heures de la vieille dame. La veille, le dimanche 1er juillet 1951, Marie Reaser a passé l'après-midi chez son fils Richard, dans sa grande maison, à quelques centaines de mètres de son appartement. Elle n'est pas dans son assiette, et son fils et elle se disputent. En fin d'après-midi, lassée d'attendre que quelqu'un daigne la raccompagner chez elle en voiture, elle quitte le domicile de son fils avec mauvaise humeur, et elle rentre à pied. Plus tard dans la soirée, Richard lui rend visite. Il veut arranger les choses. Il s'inquiète pour sa mère depuis qu'elle a déménagé à Saint-Pétersbourg. Il sent bien que la veuve a du mal à se faire à sa nouvelle vie en Floride et que la dépression la guette.
Tu sais ce que c'est que de devenir une mère qui vit toute seule ?
Marie Reaser s'était rapprochée de son fils Richard, de son épouse Ernestine et de ses trois petites filles. Mais sa Pennsylvanie natale, sa grande maison pleine de souvenirs et les parties de bridge avec ses amis, tout ça lui manquait énormément. Et cette chaleur, elle trouvait la Floride bien trop ensoleillée et les températures estivales lui étaient quasiment insupportables. La vieille dame regrettait son déménagement qui l'avait emmenée si loin de ses racines. Et depuis quelques semaines, elle mettait tout en œuvre pour pouvoir retourner en Pennsylvanie, à Columbia, sa ville natale. Mais ses amis peinaient à lui trouver un logement décent et Marie Reaser se désespérait. Dimanche soir, Richard est inquiet et il veut s'assurer que sa mère ne manque de rien. Il la trouve assise dans son fauteuil, en chemise de nuit, ses pantoufles de satin noir aux pieds. Elle fume une cigarette, essayant de se rafraîchir grâce à l'air soufflé par deux ventilateurs posés à côté d'elle. Après son humeur maussade de cet après-midi, elle semble étrangement sereine. Marie informe son fils qu'elle a pris deux pilules d'un sédatif léger et qu'elle se prépare à aller dormir. Après cette visite, Richard ne reverra jamais sa mère. Le lendemain matin, la logeuse Patsy Carpenter découvre ses restes calcinés. Au début de son enquête, la police de Saint-Pétersbourg traite le décès de Marie Reaser comme une affaire criminelle. Elle pense que quelqu'un a tué la vieille dame et a brûlé le corps pour effacer les traces de son crime. Mais après avoir interrogé les proches de la victime et les différents témoins, la thèse du crime crapuleux est rapidement écartée par les détectives Lee et Boyd. Marie Reaser serait donc décédée dans des circonstances accidentelles. Mais comment l'expliquer ? Comme ils se sont dépassés, le chef Reichert, directeur de la police de Saint-Pétersbourg, requiert l'aide du FBI et de plusieurs experts. Une partie des cendres de Madame Reaser seront envoyées au labo de l'agence fédérale pour analyse, le reste est évacué à l'appel. Le laboratoire du FBI livre ses conclusions quelques jours plus tard. Il n'a trouvé aucun accélérant d'aucune sorte dans les restes de la vieille dame. Ni essence, ni alcool, ni produit inflammable d'aucune sorte. L'état de destruction du corps de la défunte demeure un mystère.
La brigade criminelle n'a trouvé aucune preuve d'un quelconque acte de malveillance.
Elle n'avait pas une assurance vie ?
Non, et là, vous délirez.
L'hôpital qui se fout de la charité.
On est des scientifiques et nous cherchons à établir de façon impartiale la vérité. Je connais les lois de la science. N'empêche qu'il ne faut pas être borné quand on a éliminé toutes les autres théories. La combustion spontanée est bien la seule explication.
Conclusion de la police, Marie Reaser se serait endormie dans son fauteuil, une cigarette à la main. La cigarette aurait mis le feu à son peignoir fait de matière hautement inflammable. La graisse de son corps et le rembourrage du fauteuil auraient servi de combustible au feu, qui aurait consumé lentement son corps et l'aurait réduit en cendres au bout de quelques heures. Voilà pour la version officielle. Même si cette version apparaît plausible, elle contient un grand nombre d'incohérences. Pourquoi une personne qui souffrait à ce point de la chaleur comme Mary Reaser aurait-elle mis un peignoir par-dessus sa chemise de nuit ? Certaines fenêtres de son appartement ont été retrouvées ouvertes. L'aération, combinée à l'action des deux ventilateurs, aurait dû, normalement, propager le feu à l'ensemble de l'appartement. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été le cas ? Et surtout, une simple cigarette peut-elle occasionner de tels dégâts ? Pourquoi tous ceux qui s'endorment une cigarette à la main ne finissent-ils pas réduits en cendres ? Interrogé à propos du cas de Mary Reaser, le docteur Wilton Krogman, un anthropologue de l'Université de Pennsylvanie et spécialiste du feu, déclarera
« Je considère ce cas comme la chose la plus étonnante que j'ai jamais vue. En le relisant, les poils sur ma nuque se hérissent avec un vague sentiment de peur. Si je vivais au Moyen-Âge, je murmurerais quelque chose à propos de magie noire. »
La personnalité de Mary Reaser rassemble, par bien des aspects, toutes les caractéristiques des victimes de combustion humaine spontanée. C'était une vieille dame seule, en surpoids, fumeuse et déprimée. Et bien que les circonstances de sa mort aient été examinées par tout un cortège de journalistes et d'experts, aucune explication réellement satisfaisante n'a pu y être apportée jusqu'à aujourd'hui.
Elle portait une chemise de nuit comme celle-ci. Il y avait un paquet de clopes près d'elle, donc elle était sûrement en train de fumer.
Une brûlure de cigarette l'aurait réveillée avant qu'elle soit carbonisée.
Oui, mais le labo de toxicologie nous en a appris une bonne. Une concentration élevée de séconales dans le sang.
Des somnifères ?
De quoi assommer un bœuf. On reconstitue les faits.
Ironie du sort, le matin du 1er juillet, quand le facteur s'est présenté chez la vieille dame, il lui apportait une bonne nouvelle. Ses amis avaient enfin pu tout arranger pour son retour et il l'attendait, chez elle, en Pennsylvanie.
Bienvenue à Uruf. Uruf, petite commune rurale située aux confins du département de Meurthe-et-Moselle. Traversé par le ruisseau de la Deuil, le petit village de 400 habitants est un endroit paisible qui ressemble aux autres bourgs français, avec son église, sa mairie, sa place, son cimetière, une rue centrale qui ressemble, vue du ciel, à une large cicatrice bitumeuse. Et au-delà des toits des murs, c'est de la campagne verdoyante, à perte de vue. En tout cas pendant l'été, car en Lorraine, les hivers sont rudes et glacés. Si Uruf possède en apparence le charme simple et discret des villages de campagne, il n'a pas toujours été un havre de paix et de tranquillité. Deux histoires ont marqué les esprits dans la région. La première est celle du curé d'Uruf. Au matin du 4 décembre 1956, on retrouve dans un fossé, au bord d'une route près du village, le cadavre d'une jeune fille de 19 ans qui avait disparu la veille. Régine Faïs. Elle a été assassinée de 3 balles de revolver. 2 jours plus tard, le curé du village, Guy Desnoyers, 36 ans, est placé en garde à vue. Après 48 heures pendant lesquelles il niera être l'auteur du crime, il craque et avoue tout.
Si jeune et déjà si insensible.
Si jeune mais point inflexible.
Que la vie en décide et que dans mes bras, elle te guide.
Pourquoi ?
Comme la chaleur rayonnante du soleil. Telle la course éperdue des astres dans le ciel, mon amour ne peut t'apporter de larmes.
Guy entretenait une relation secrète avec Régine. Elle apprend un jour au curé qu'elle est enceinte et lui promet de garder le secret de la paternité de l'enfant. Mais elle refuse d'accoucher clandestinement, de l'abandonner ou encore d'avorter. Quelques semaines avant l'accouchement, pris de panique, le curé entraîne Régine en dehors du village.
Je t'aime.
Il la tue avec son pistolet, puis l'éventre à l'aide d'un canif. Il sort le bébé toujours vivant, une petite fille qu'il baptise pour la sauver des limbes, puis met fin à sa vie à coups de couteau. Il prend soin de taillader son visage afin d'effacer toute éventuelle ressemblance. Il pousse ensuite la mère et son enfant dans le fossé.
Je rappelle à l'Assemblée qu'elle a obligation de par la sainte obéissance et sous peine d'excommunication de prêter son concours à l'inquisiteur dans sa lutte douloureuse contre l'hérésie.
Lors du procès en 1958, la foule réclame la peine de mort. Après 1h et 40 minutes de délibération, les 7 jurés contre toute attente accordent à l'homme des circonstances atténuantes, car il est prêtre. Guy Desnoyers échappe donc à la peine capitale. Il est condamné aux travaux forcés à perpétuité. Le 5 août 1978, après 22 ans de détention, la liberté conditionnelle lui est accordée. Il s'éteindra en 2010, à l'âge de 90 ans, dans une abbaye du Morbihan où il s'était retiré. L'autre affaire qui va émouvoir les Lorrains se déroule en 1977. Alain, 25 ans, fils d'immigrés polonais, est le jeune instituteur du village du Ruf depuis septembre 1974. Il occupe l'un des deux logements de fonction, au-dessus de l'école, juste en face du presbytère, où vivait encore un certain Guy Desnoyers. Le père d'Alain est décédé en 1967 au fond d'une mine de Lorraine lors d'un coup de grisou. Sa mère, Madame Ginette Casimirziak, âgée de 51 ans, est une femme discrète et timide qui vit en alternance chez son fils à Uruf et chez sa fille qui habite à Conflans, dans le même département.
Je suis seule. Ton père est parti. Je suis vieille.
Tu as des amis, maman.
Oh, ça n'a rien à voir. Elles n'ont pas besoin de moi.
Elle ne s'est jamais vraiment remise de la mort de son mari. Depuis le drame, elle est devenue fragile et dépressive. Elle a même tenté de mettre fin à ses jours en 1975 et 1976. Depuis, elle est suivie par un spécialiste et sous traitement médical, car elle a parfois en période de crise des visions et des hallucinations. Hélas, les médicaments prescrits par le docteur Lalouette semblent amplifier sa mélancolie, qu'elle a de plus en plus de mal à dissimuler.
Enfin, je vois tout simplement un médecin.
Mais qu'est-ce qu'il te donne, maman? Il te donne des comprimés?
Bien sûr qu'il me donne des comprimés, c'est un médecin.
Mais quel genre de comprimés?
Comment veux-tu que je sache ce qu'il y a dedans?
Et après les avoir pris, est-ce que tu te sens énergique? Est-ce que ça te file la pêche?
Oui. Mais ça s'arrête la nuit.
La nuit?
Oui, quand je prends le comprimé vert. Je m'endors en 30 minutes. Pouf, comme ça.
Alors, pour ne rien montrer de cette souffrance qui la ronge, elle vit un peu recluse chez ses enfants. On l'aperçoit peu dans les rues du Ruf. Elle ne sort que pour le strict nécessaire, tout en s'évertuant à être gentille et souriante avec le voisinage. Son fils, Alain Casimirziak, est un jeune homme heureux. Il aime son métier, sa Lorraine natale, mais il aime par-dessus tout Nathalie Barbier, sa fiancée. C'est une employée d'un magasin de sport de la ville de Nancy. Ce mercredi 11 mai 1977, Alain va retrouver Nathalie à 19h devant sa boutique et ils vont passer la soirée ensemble. Même s'il a le cœur léger en cette belle soirée du mois de mai, Alain ne peut s'empêcher de penser à sa mère qui ne tolère que difficilement sa nouvelle relation amoureuse. Jalouse et possessive, elle se sent abandonnée lorsqu'Alain quitte, bien habillé et parfumé, l'appartement de fonction pour rejoindre sa dulcinée.
Il faut que je m'en aille.
Il faut que nous parlions.
Non. Non, il faut que je parle.
Non, je t'en prie, ne pars pas. Il faut que je te parle.
Non.
19h30. Éric Léonard frappe à la porte du petit 4 pièces. Il a un léger geste de recul lorsqu'il s'aperçoit que ce n'est pas son ami qui est derrière la porte légèrement entrouverte, mais sa mère. Une mère qui dit:
Alain est à Nancy. Il faudra que vous repassiez demain.
Éric n'a que quelques secondes pour dévisager son interlocutrice. On peut lire dans son regard comme un désespoir, et c'est assez troublant. Avec un sourire emprunté, il salue la mère de son ami, puis s'en va en descendant 4 à 4 les escaliers. Il sera la dernière personne à voir Ginette Casimirziak vivante. Dans l'appartement voisin de l'instituteur habite Madame Saleur. Elle n'est pas institutrice, elle travaille à l'usine de Vannes-le-Châtel. Préférant ne pas laisser un appartement vacant, la commune loue le logis à cette veuve avenante, souriante et sans histoire. Chaque jour de la semaine, pour se rendre à la cristallerie de Vannes, Madame Saleur se lève à 4h du matin, sauf pendant cette nuit du 11 au 12 mai 1977. Il est 3h20 du matin lorsqu'elle se redresse subitement dans son lit, avec l'impression qu'elle est en train de s'étouffer. Paniquée, elle constate qu'une épaisse fumée grise flotte dans la chambre. Elle pense que c'est son poil qui est en train de cracher ces émanations âpres et malodorantes qui la font tousser. Instinctivement, elle ouvre en grand ses fenêtres pour aérer son appartement, puis retourne se coucher. Mais le sommeil ne vient pas, et comme il ne reste plus qu'une petite demi-heure avant que le réveil se mette à sonner, Madame Saleur se lève, s'habille, puis se prépare un grand café. Tout est calme à Uruf à cette heure-ci. Un silence pénétrant, mais qu'un étrange et persistant grésillement perturbe. Le bruit est faible, mais gênant. Ce n'est pas la cuisinière, ce n'est pas la radio, c'est quelque chose d'autre. L'ouvrière se lève de sa chaise, fait à pas de velours le tour de son appartement. Le crépitement se fait plus intense vers la porte d'entrée. C'est à ce moment précis qu'elle se souvient de la fumée. Ce crépitement, c'est en fait celui d'un feu. Elle ouvre la porte et aperçoit des flammes qui lèchent la porte des Casmirzia. Horrifiée, Madame Saleur dévale les escaliers en hurlant dans la nuit noire.
Au feu ! Au feu ! Aidez-moi ! Au feu !
Les cris réveillent le voisinage et l'alerte est donnée. Raymond Zimmermann, le chef des pompiers, arrive sur place avec le jeune maire d'Uruf, monsieur Jean-Jacques Jung. Très vite, le tocsin retentit dans tout le village et on entend des sirènes se rapprocher. Rapidement, un attroupement de curieux se forme devant les grilles de l'école. Un adolescent hurle en montrant les fenêtres. Sa mère est sûrement dans l'appartement. Les pompiers arrivent sur le palier du premier étage et constatent que des flammes de 15 cm dévorent le bas de la porte d'entrée. L'incendie est heureusement vite maîtrisé. Mais la fumée est si épaisse que les secouristes décident de prendre une échelle pour passer par une fenêtre de l'appartement donnant sur la mairie. René Zimmermann fut le premier à pénétrer dans le logement de fonction. Et voici ce qu'il dit. Après avoir cassé la vitre, je suis directement allé muni d'une torche électrique dans la chambre de Madame Casimirziak. Mais le lit était vide. J'ai ensuite ouvert la porte entre le bureau et la cuisine. Et là, j'ai découvert la victime. La vision était tellement terrifiante que je ne suis pas resté longtemps. Daniel Henry, commandant de la gendarmerie de Toul, arrive sur les lieux de l'incendie à 6h du matin. Voici ce qu'il raconte.
Nous avons découvert derrière la porte d'entrée de l'appartement les restes du corps de la victime. Les seules parties qui ne sont pas réduites en cendres sont les deux jambes, le bassin et le bras droit. Le corps est allongé sur le dos, les jambes sont légèrement écartées et le crâne repose contre le montant de la porte d'entrée. Celui-ci n'a plus de chair ni de cheveux. Le bras gauche n'est plus qu'un tas de cendres, tout comme le tronc et l'abdomen. La victime était vêtue d'une robe en tergale, de bas en nylon couleur marron. Sur les cuisses, nous remarquons quelques traces produites par l'éclatement de la peau au contact du feu, ou alors par des éléments de la porte fracturés par les pompiers.
On retrouve dans cette description toutes les caractéristiques d'une combustion humaine spontanée. Après un examen encore plus minutieux, les enquêteurs remarquent que le feu n'a attaqué que la victime. Il ne s'est pas propagé dans le reste de l'appartement, à présent recouvert d'une suie grasse et glissante. Un boîtier, de lampes électriques posées sur la hotte de la cheminée et de nombreux objets en plastique ont fondu. Mais le frigidaire fonctionne toujours. La bouteille de gaz est fermée. Les boutons de la cuisinière sont sur le chiffre zéro. Dans le bureau, le poêle à mazout, seul élément de chauffage de l'appartement, est froid. On ne trouve pas de briquet, mais une simple boîte d'allumettes sur le rebord de la fenêtre. Elle est intacte. En fin de matinée, les restes du corps de la victime sont emportés à l'Institut médico-légal de Nancy pour subir une expertise approfondie.
Ainsi donc, s'acheva la vie de la veuve Ginette Casimir-Ziak, 51 ans, à un beau matin du mois de mai 1977. Une fin de vie violente sur laquelle vont devoir enquêter les autorités. La première thèse évoquée dans la presse est celle de l'accident, mais l'éventualité d'avoir affaire à un suicide ou à un homicide n'est pas totalement écartée.
Lorsqu'on souffre et qu'on a peur pendant aussi longtemps, la peur et la douleur se transforment en haine, et la haine commence à changer le monde. Elle brûlait ses entrailles.
Premier constat troublant, la porte d'entrée était bel et bien fermée depuis l'intérieur, tout comme les fenêtres, puisqu'il a fallu en casser une pour pénétrer dans l'appartement. La clé du logis n'existe qu'en deux exemplaires. Une était dans un tiroir de bureau, l'autre sur le trousseau d'Alain, qui était avec sa fiancée à Nancy. Ce qui est tout aussi troublant, c'est que la voisine, Madame Saleur, ne mentionne à aucun moment dans sa déposition la présence d'une odeur désagréable. Or, un corps qui se consume dégage une puanteur infernale. Autre fait déconcertant, c'est le peu de dégâts occasionnés par l'incendie, alors que la victime a été réduite en cendres, comme lors d'une crémation où le cercueil et le corps sont brûlés à une température de plus de 800 degrés pendant 1h30. Maintenant, reste à savoir ce qui a pu provoquer une telle chaleur sur un aussi petit périmètre. On procède par élimination. Ce n'est pas le poêle à mazout, qui était éteint et froid, l'arrosoir qui servait à le remplir est vide, ce n'est pas non plus un problème électrique. Le compteur de l'appartement n'a pas disjoncté, la boîte d'allumettes sur le rebord de la fenêtre est intacte, tout comme la bouteille de gaz de la gazinière. Et de toute façon, il n'y a pas eu d'explosion. Rappelons que la voisine a entendu un léger crépitement en provenance du palier et non pas une violente détonation. Pas la moindre trace de bougie dans l'appartement, c'est en tout cas ce que confirme le fils dans sa déposition. Épais et bien documenté, le rapport conclut « Aucun élément ne permet de déterminer comment le feu a pu être allumé sur le corps et la nature du combustible qui a alimenté l'incendie. » La seule chose dont les enquêteurs sont à peu près sûrs, c'est que c'est le corps de la dame Duruf qui s'est enflammé en premier et seulement après que la victime soit tombée sur le sol. Une reconstitution des faits propose le scénario suivant. La dame a pris feu dans le vestibule de l'appartement le 11 mai en fin de soirée. Le corps est resté en combustion jusqu'à 3h30 du matin, le 12 mai. La presse souffle sur les braises de la malheureuse en évoquant tantôt le mystère, tantôt une malédiction. Peut-on y voir un lien avec l'affaire du curé Duruf? Est-ce que la polonaise dépressive était en fait une sorcière? Les rumeurs vont bon train dans les ruelles du village, pendant que l'enquête piétine. On pense à un moment que c'est une bombe insecticide retrouvée près du corps qui pourrait être la clé de l'énigme. Mais les analyses faites à l'hôpital Fernand Vidal de Paris écartent cette hypothèse, car d'après le laboratoire, les restes du soutien-gorge de la victime ne comportent aucune trace de produits chimiques. Conclusion, soit Ginette Casimir-Ziak est morte d'une crémation spontanée, soit on l'a aspergée de fioul. Soit, autre hypothèse évoquée, il s'agit d'une inflammation des gaz intestinaux qui ensuite s'est propagée au reste du corps. C'est en tout cas ce qu'affirme au journal Allo 18 Michel Rudler. Selon l'expert, les gaz intestinaux sont des gaz inflammables et une combinaison de circonstances favorables ainsi qu'un déclencheur extérieur comme une simple étincelle peuvent provoquer un départ d'incendie. Alors, accident, homicide ou combustion humaine spontanée. Après avoir lu et relu les différents rapports de l'enquête, le parquet de Nancy rend son verdict. Et c'est un non-lieu. Mort inexpliquée et inexplicable. Affaire classée. Ce 18 janvier 1978, la dame Duruf venait de mourir une seconde fois.
Ah, Lisa, te voilà enfin. J'ai oublié les clés de l'appartement. Où étais-tu ? J'appelle et j'appelle.
Je te l'ai dit, j'avais mon cours d'hypnose aujourd'hui. Au retour, j'ai dû m'arrêter à l'université. Tu ne peux pas imaginer ce qui se passe. Il y a des centaines de policiers et de journalistes.
La plupart des victimes de combustion humaine spontanée sont des personnes plutôt âgées, en surpoids, souvent seules, parfois déprimées. Mais certaines victimes ne présentent aucune de ces caractéristiques. Ainsi, le cas de Jérémy Rackham défie les préjugés. Jérémy Rackham était jeune, plein de promesses et de santé. Nous sommes le 13 mai 1980. Jérémy passe la soirée dans sa résidence d'étudiant à Birmingham. Il occupe le logement C2 au 20e étage. C'est un jeune garçon de 20 ans sans histoire, pas vraiment un fêtard, un étudiant besogneux, motivé, sportif et non-fumeur. Après avoir passé la soirée à bûcher, Jérémy se met au lit tôt pour profiter d'une bonne nuit de sommeil. À 3h30 du matin, deux autres jeunes hommes entendent des cris en provenance du logement C2. Ils s'y précipitent et trouvent Jérémy Rackham en feu. Ils vont chercher leurs oreillers et s'en servent pour éteindre les flammes. Choqués et désorientés par ce qu'ils viennent de voir, ils traînent Jérémy hors de sa chambre, jusque dans le couloir, à l'abri d'un hypothétique incendie. À 3h42, une ambulance arrive à la résidence d'étudiants. Les secouristes se rendent immédiatement au 20e étage. On leur a signalé un jeune homme victime de brûlures électriques.
Attendez.
Mais quand ils découvrent Jérémy Rackham dans le couloir, ces brûlures sont bien d'origine thermique.
Rapprochez-vous. Présentez-le. Oxygène branché.
Attends,
passez-moi.
Le plus gradé des secouristes examine alors la chambre de Jérémy pour déterminer l'origine de ses blessures. Il pénètre dans le logement C2, mais il n'y découvre aucun feu. Tout ce que l'officier voit, ce sont les traces d'un feu dont on ignore l'origine.
Super.
Au pied du lit, un dossier en carton contenant une feuille en papier soigneusement pliée en deux est brûlé à l'une de ses extrémités. À l'entrée de la chambre, il y a des revues et des journaux légèrement carbonisés dans une poubelle en métal, sous le bureau. À droite de la porte, soigneusement plié sur le bras d'un fauteuil, un couvre-lit est légèrement roussi. L'officier se dirige alors vers le lit de Jérémy, dans le coin au fond à gauche de la chambre. Le drap est roulé en boule et rejeté au pied du lit. Quand le pompier le déplie, il remarque que le drap porte lui aussi de légères traces de brûlure. Elles présentent la forme d'un corps humain. On distingue les jambes, le bassin, le torse et un bras. Le soldat du feu retourne dans le corridor et demande à Jérémy ce qu'il s'est passé. Il lui répond.
Je ne sais pas, j'étais étendu sur le lit et je me suis réveillé en flammes.
Jérémy est brûlé au cou, au dos, au thorax, au bassin, aux jambes, aux deux bras, sur plus de 70% de son corps. Malgré l'intervention rapide des secours, il décède à l'hôpital deux jours plus tard. Les services de secours de la ville de Birmingham ne sont plus face à un homme blessé, mais face à un décès dont les causes n'ont pas pu être établies. Conformément à la procédure, l'enquête est confiée à l'officier divisionnaire. Mais comme son subordonné, l'enquêteur ne parviendra pas à établir l'origine du feu. On n'a retrouvé ni allumettes ni briquets dans la chambre de Jérémy. On a bien retrouvé du liquide inflammable dans une bouteille, mais celle-ci était soigneusement rangée dans un tiroir. L'une des hypothèses examinées est celle selon laquelle Jérémy aurait mis le feu aux documents retrouvés dans la corbeille et que ce feu se serait ensuite propagé à sa personne. Comme aucune source d'ignition n'a été retrouvée dans la chambre C2, on suppose que Jérémy a allumé le dossier en carton retrouvé légèrement brûlé sur la cuisinière à gaz du réfectoire de la résidence d'étudiants avant de transférer celui-ci dans la corbeille. Mais aucune preuve ne soutient cette hypothèse. En particulier, on n'a retrouvé aucun résidu de papier brûlé entre le réfectoire et la chambre de Jérémy. L'examen du lit de Jérémy semble, lui, accréditer la thèse selon laquelle c'est bien là que le feu s'est déclaré. Alors que le reste de la chambre ne porte quasiment aucune trace d'incendie, ni même de brûlure, à l'exception des éléments déjà mentionnés, le matelas de l'étudiant est détruit à 50% par les flammes et son oreiller porte lui aussi des traces de brûlure. Est-ce que Jérémy se serait immolé par le feu? Mais comment, sans allumettes ni briquets? Et dans ce cas, pourquoi rabattre son drap sur lui après le départ du feu? Autre hypothèse, celle selon laquelle c'est une tierce personne qui aurait mis le feu à Jérémy. Mais comment cette personne aurait-elle pu mettre le feu au lit de la victime sans se faire remarquer des autres étudiants de la résidence? Les enquêteurs envisagent toutes les explications possibles, même le meurtre ou le suicide, mais finalement aucune ne les convainc. Le dossier de la mort de Jérémy Rackham est définitivement classé le 31 décembre 1980. Cause de la mort, blessure engendrée par un feu, origine inconnue.
C'est difficile à exprimer. Je me rends compte seulement aujourd'hui que depuis mon enfance, j'ai vécu seul. Bien sûr, il y a souvent eu beaucoup de monde autour de moi. J'ai eu de la chance, mais en réalité, j'ai vécu seul. Sauve-moi, je t'en prie. J'ai peur.
Bienvenue à Saint-Pierre-du-Palais en Charente-Maritime. C'est ici que vit Garabet Chakirian. Le vieil homme est né à Izmir en 1901. À l'époque, ce port stratégique appelé Smyrne fait partie de l'Empire ottoman. Pendant la Première Guerre mondiale, la région va connaître une période trouble et sanglante avec des conflits à répétition entre Grecs, Arméniens et Turcs. Garabet se sent en danger et décide de quitter toutes ces atrocités en compagnie de sa mère et de sa sœur. Sur un rafio plein à craquer, il quitte cette ville qu'il ne reverra plus jamais. Et si la chance est de son côté, dans quelques jours, il sera en France. Tout comme de nombreux autres réfugiés arméniens, Garabet débarque à Marseille au début des années 20. Et il n'est pas facile de s'intégrer. Il partage, c'est vrai, la même religion que la majorité des Français, mais pour le reste, tout est différent. Il faut donc repartir de zéro, s'inventer une nouvelle vie. Une vie discrète, tellement discrète qu'on ne sait pas de quoi elle est faite. Il serait d'ailleurs plus judicieux de remplacer le mot « vie » par celui de « survie ». La mère de Garabet meurt en 1949. Aucune autre femme ne viendra par la suite la remplacer dans le cœur du réfugié. En 1978, l'enfant d'Izmir est devenu un vieil homme de 77 ans. Un homme cultivé, solitaire, mais surtout très discret. Dans le petit village où il habite depuis le décès de sa mère, M. Chakirian est respecté, estimé, mais tout le monde sait qu'il est peu enclin à s'étendre sur son passé. Alors, c'est un sujet qu'on évite en sa présence d'aborder, juste par respect pour sa vie privée. Garabet Chakirian habite dans une maison rurale et austère qui se compose de quatre petites pièces. Ce qui est bien assez pour un homme seul. Lorsqu'on passe le petit portail en bois, il y a juste en face la porte d'entrée. On pénètre directement dans la cuisine. À gauche se trouve une chambre réservée à sa sœur qui habite à Romainville, en région parisienne. Elle vient trois fois par an, surtout pendant l'été. La mer n'est pas très loin et le climat océanique agréable. Depuis cette chambre, on accède à une autre chambre, celle du propriétaire. Derrière la maison, un petit jardinet avec un potager et quelques ruches. Homme méticuleux et ordonné, Garabet ne boit pas d'alcool, ne fume pas. Il est même végétarien depuis de nombreuses années. Les amis, il peut les compter sur les doigts d'une main. Son plus proche confident est M. Pierre Blanchet, la quarantaine. C'est un agriculteur du bourg voisin qui s'occupe, tout comme lui, d'une ruche. Ainsi va donc la vie de M. Chakirian, le gentil et discret voisin, qui est à présent comme un enfant du pays. Ce samedi 15 juillet 1978, le vieillard se couche tôt, tout comme à son habitude. Il fait encore jour dehors. L'air est délicieusement tiède. Le chant des cigales, lancinant et monotone, agit comme une berceuse. Les yeux se ferment, le corps se détend, puis on entend dehors par la fenêtre, entrouverte, quelques ronflements. Dimanche 16 juillet 1978. Il est 8h30. Maurice Brun, 45 ans, travaille dans son champ situé juste en face de la maison du vieil homme. Soudain, sa femme court à sa rencontre, complètement paniquée. Tout en reprenant son souffle, elle hurle.
Chérie, il y a le feu chez Chakirian. Je viens d'appeler les pompiers.
Immédiatement, Monsieur Brun lâche ses outils et se dirige vers la maison dont toutes les issues sont hélas fermées de l'intérieur. Il brise le volet en bois de la chambre de Garabet. Il recule d'un pas en mettant sa manche devant son nez. Une épaisse fumée noire s'échappe de la pièce. On ne voit strictement rien. L'agriculteur asperge les ténèbres avec le tuyau d'arrosage du jardin. On entend des sirènes au loin. Ce sont les pompiers de Mont-Guyon. La porte est fracturée, puis ensuite un autre volet. L'épaisse fumée noire commence enfin à se dissiper. Lorsque les pompiers entrent dans la chambre du propriétaire, ils constatent que le lit est entièrement calciné, mais il est vide. Monsieur Tchakirian est introuvable. C'est au tour de la gendarmerie d'arriver sur place. Elle tente de disperser les badauds. Le gendarme Taureau entre dans la bâtisse en premier. Il inspecte les lieux quand il constate avec effroi que le corps de Garabed est passé à travers le sommier. Le corps, ou plutôt ce qu'il en reste. Seule la tête semble être intacte. Les gendarmes sont stupéfaits. De surcroît, ils constatent que si la literie a entièrement brûlé, aucun meuble de la chambre n'a été endommagé. Ils sont juste recouverts d'une suie couleur noire de jais. Pour le reste, tout est impeccable. Pas de traces de lutte ou d'effraction dans la maison. Cette mort est si étrange que le commandant de la compagnie de gendarmerie de Jonzac prend la décision dans un premier temps de ne pas déplacer le corps. On procède à une fouille méticuleuse de la maison. Et très rapidement, les pistes criminelles et suicidaires sont abandonnées. Aucun élément concret pendant l'enquête ne vient accréditer ces deux thèses. On se dirige donc vers une mort accidentelle. L'hypothèse du court-circuit est rapidement elle aussi écartée, car l'installation électrique fonctionne parfaitement. Elle n'a même pas été endommagée par l'incendie. Après quelques photos du corps prises sous tous les angles possibles, celui-ci est transporté à la morgue de Jonzac. Dans le petit bourg de Saint-Pierre-du-Palais, c'est la consternation la plus totale. Sur commission rogatoire du juge d'instruction de la ville de Saintes, on pratique une autopsie. C'est le médecin légiste pour Soleil qui s'en charge. Il constate deux hématomes sur le crâne causés par la chute du corps lors de l'effondrement du sommier. C'est au tour à présent des enquêteurs de faire leur rapport. Et voici leur conclusion. Les causes de l'incendie sont inexplicables. L'autopsie n'apportant rien de plus, l'affaire est classée et la dépouille enterrée. Le vieillard emporte donc avec lui un bien étrange secret, peut-être celui de la combustion humaine spontanée.
Dites-nous ce que ce pied a dans le ventre. Où est le reste du corps ?
Tout a brûlé. Le labo a analysé les cendres, mais n'a rien trouvé côté produit inflammable, mis à part de la matière sébacée.
De la graisse humaine ?
C'est ça.
Ah, en tout cas, on peut constater que la malléole, l'os de la cheville, est comme creusée de l'intérieur. La moelle osseuse a complètement fondu. Le pied a brûlé avec le reste du corps, apparemment il n'a pas été sectionné. Ça concorde avec votre théorie de combustion spontanée.
Comment êtes-vous au courant de sa théorie ?
Les nouvelles circulent vite. Si le pied avait été sectionné, la moelle serait restée intacte.
Vous concluez donc que la victime aurait pris feu toute seule ?
Pas encore. Je vais envoyer un échantillon à la toxicologie. Nous verrons si le sang contenait des composants inflammables. Mais il ne faut pas trop compter là-dessus. La qualité du prélèvement a sans doute été altérée par la chaleur.
Jusqu'à la moitié du 19e siècle, on trouvait un chapitre sur les combustions humaines spontanées dans chaque manuel de médecine. Le phénomène était étudié couramment, et d'après les scientifiques de l'époque, son explication était limpide. Si les gens prenaient feu, c'est parce qu'ils étaient des alcooliques invétérés. Le raisonnement scientifique coïncidait avec un argument d'ordre moral, c'est par leur mauvais comportement que les gens causaient leur propre perte. On pensait alors que l'alcool, consommé à haute dose, imbibait les tissus humains et rendait un corps inflammable. Une simple allumette, une bougie, n'importe quelle source d'ignition, et pshh, le soifard se retrouvait transformé en brasier. Cette vision de la combustion humaine spontanée est portée et popularisée par la littérature de l'époque. de Charles Dickens à Émile Zola. Mais avec l'avancement des connaissances scientifiques, on sait aujourd'hui que même le pire des ivrognes ne pourrait s'enflammer. Dans les cas très sévères de biture, les tests révèlent, à la prise de sang, une alcoolémie autour de 3 grammes par litre. À ce taux-là, il serait plus facile de mettre le feu à une bière. À 4 grammes d'alcoolémie, c'est le coma, et à 5, la mort, bien avant toute possibilité de combustion humaine spontanée par inflammation d'alcool. Exit donc la théorie de la torche éthylique, l'hypothèse la plus communément acceptée actuellement par la communauté scientifique pour expliquer les cas de combustion humaine spontanée, c'est celle de l'effet mèche ou de l'effet bougie.
Nous réfutons la thèse de la combustion spontanée. On a habillé un cochon avec une nuisette en coton et on a mis le feu avec une cigarette.
Résultat des courses.
La bestiole est réduite en cendres. La graisse a nourri le feu comme la cire d'une bougie. Il a brûlé lentement mais sûrement. Rien de spontané a priori.
Vous saviez tous les deux qu'il y avait une explication scientifique à la torche humaine. Et la mèche, vous l'avez trouvée ?
La quoi ?
Pardon. Un petit morceau de tissu, un peu roussi mais pas complètement brûlé. On appelle ça l'effet mèche. C'est comme une chandelle, mais à l'envers.
La théorie de l'effet mèche se base sur l'une des caractéristiques communément observées chez les victimes, leur embonpoint. Pour que l'effet mèche opère, il faut que le corps contienne une quantité suffisante de graisse afin d'alimenter le processus de combustion. La graisse corporelle joue alors le rôle de la cire et les vêtements portés par la victime deviennent la mèche. Il suffit alors d'une source extérieure d'embrasement, un foyer de cheminée, un poêle à bois, une lampe, une bougie, un chauffage électrique ou une cigarette. Les vêtements s'embrasent, la peau carbonisée se fendille et expose la graisse sous-cutanée. La graisse fond sous l'effet de la chaleur, elle coule hors du corps et elle se répand sur les vêtements, qui s'enflamment de plus belle et alimentent la combustion. En 2012, un médecin légiste américain a réalisé une étude en utilisant les dépouilles de personnes qui ont donné leur corps à la science. Il a montré qu'un corps humain vêtu de coton et auquel une source externe met le feu se consume pendant 6 à 7 heures. Le résultat est une combustion de 75 à 80% de la masse corporelle qui n'épargne que le squelette. En brûlant lentement, la graisse humaine dégage donc assez de chaleur pour entretenir sa propre combustion. L'incendie finit par s'éteindre de lui-même une fois que toute la graisse est consumée. Il faut cependant qu'un certain nombre d'autres conditions soient réunies pour que l'effet mèche fonctionne. La présence de combustible, comme des vêtements en fibres naturelles, ou la présence d'un matelas. Un certain taux d'oxygène, ni trop faible ni trop élevé. L'absence de ventilation, etc., etc. La théorie de l'effet mèche explique pourquoi certaines parties du corps sont retrouvées carbonisées et d'autres intactes. Le ventre, les fesses, les cuisses, les bras, la poitrine brûleraient car ils contiennent suffisamment de graisse, à la différence du crâne et des pieds. Cette théorie explique également comment des corps peuvent être presque intégralement détruits alors que leur environnement immédiat apparaît inaltéré. Mais pourquoi des personnes dont le corps s'embrase ne réagiraient-elles pas ? Pour les partisans de l'effet mèche, ce serait lié à la personnalité des victimes. Des personnes âgées, le plus souvent des femmes obèses, en mauvaise santé et qui ont du mal à se déplacer. Les victimes présenteraient souvent une pathologie cardiovasculaire et elles auraient pu succomber à une crise cardiaque ou perdre connaissance ou encore subir un accident vasculaire cérébral avant que leur corps ne s'enflamme. Certains argumentent aussi que les victimes de combustion humaine spontanée seraient des alcooliques. Dans ce cas, ces personnes auraient été plongées dans un coma éthylique qui les aurait empêchées de réagir quand leur corps se serait consumé. On retrouve ici le rôle central de la consommation d'alcool dans les cas de combustion humaine spontanée, mais cette fois-ci, non pas comme un carburant, mais comme un anesthésiant. Pour autant, bien que l'effet mèche présente plusieurs arguments convaincants, cette théorie laisse un certain nombre d'éléments inexpliqués. La théorie de l'effet mèche suppose que le corps soit embrasé par une source extérieure. Or, dans plusieurs cas, il a été impossible de trouver une quelconque source d'ignition. Deuxièmement, l'effet mèche suppose que le corps contienne une quantité suffisante de graisse pour alimenter la réaction de combustion jusqu'à la destruction totale du corps. Elle est donc inadéquate pour expliquer les cas de combustion humaine spontanée chez des personnes minces et sveltes.
Eh bien, tous les soi-disant cas relevés de combustion spontanée peuvent très bien être expliqués par un phénomène connu sous le nom d'effet chandelle. Voici l'exemple classique. Un gars bien costaud, complètement ivre, tient une cigarette allumée. Il fait tomber sa cigarette sur son pyjama. Le feu se répand sur son énorme ventre.
La graisse du ventre s'étale sur le matelas, créant ce qu'on pourrait voir comme une bougie humaine à combustion très lente. Le pyjama jouant le rôle de la mèche.
La graisse brûle dedans, pas dehors, ce qui explique pourquoi rien n'a pris feu.
Enfin, l'effet mèche suppose que la combustion puisse se poursuivre pendant très longtemps pour que le corps de la victime soit entièrement détruit. Or, pour un cas au moins, celui d'Hélène Conway, les témoignages établissent que la combustion quasiment intégrale du corps s'est produite en moins d'une demi-heure. Face à ces lacunes, d'autres ont tenté de développer leur propre théorie pour expliquer les combustions humaines spontanées. Dans son livre de 1996, intitulé « A Blaze », Larry Arnold pose l'hypothèse selon laquelle les combustions humaines spontanées seraient causées par une particule subatomique inconnue, le pyrotron. D'après lui, cette particule pourrait spontanément provoquer une fusion nucléaire, libérant une énergie formidable qui causerait l'embrasement du corps. On a cependant reproché à Larry Arnold de ne pouvoir présenter aucune preuve pour soutenir cette hypothèse et qu'il semblait totalement ignorant du fonctionnement d'une fusion nucléaire. Dans leur livre de 1992 intitulé prosaïquement « Spontaneous Human Combustion », Jenny Randalls et Peter Hugh proposent eux aussi tout un catalogue d'hypothèses alternatives pour expliquer comment un corps humain peut prendre feu sans l'intervention d'une source d'ignition extérieure. Les solutions envisagées vont des réactions chimiques engendrées par le processus de digestion à l'intervention de champs de force, en passant par l'analyse de ce qu'ils appellent des balles de foudre et l'existence de niveaux dangereux d'électricité statique. Randall et Hugh postulent, comme Arnold, que les combustions humaines spontanées seraient liées à l'existence de phénomènes naturels dont le fonctionnement nous échappe encore. Leur livre n'apporte pas de réponse définitive, mais il ouvre un certain nombre de pistes qui mériteraient sans doute d'être explorées. Il tente aussi de recenser tous les cas connus de combustion humaine spontanée afin de créer une base de données et approcher le problème de la façon la plus scientifique possible. Même si leur approche n'a pas accouché d'une solution, elle a au moins le mérite de traiter le sujet avec sérieux, loin de la condescendance des uns et des explications farfelues des autres.
Assez, ça suffit, j'ai déjà assez de migraines comme ça. Je vous remercie, cher docteur. Je pense que je vais me retirer. Mes respects, cher docteur. Votre diagnostic, comme toujours, est remarquable. Qu'est-ce que c'est ?
Une décharge d'électricité statique.
Même si les histoires que nous vous avons rapportées datent de plusieurs dizaines d'années, il serait imprudent de conclure que le phénomène de la combustion humaine spontanée s'est subitement volatilisé ou bien transformé en légende urbaine pour personnes crédules ou à la recherche de sensations fortes. Encore aujourd'hui, d'étranges décès sont relatés à la rubrique des faits divers. Dimanche 12 avril 2020, une femme âgée de 55 ans est retrouvée vers 14h par son mari à leur domicile de Villiers-sur-Marne. Dans le petit appartement de l'avenue Friedberg, la police découvre un corps partiellement carbonisé dans le couloir de la cuisine. Aucun produit inflammable n'est découvert à proximité. Pas même une casserole sur le feu, nous relate le Parisien dans son article du 13 avril 2020. Selon le parquet, l'autopsie ne révèle pas de traces d'intervention extérieure pendant le processus de décès. Le mari, placé en garde à vue, est remis en liberté et c'est la thèse de l'accident domestique qui est privilégiée. Ce serait une corbeille amovible qui aurait pris feu et la victime, fortement alcoolisée, n'aurait pas su comment réagir. Fin octobre 2015, c'est une femme allemande qui va subitement s'enflammer. Partie se balader dans un parc de la ville de Flensbourg, qui se trouve au nord du pays, la quarantenaire décide de faire sur son trajet une pause et s'assoit sur un banc public. C'est alors qu'elle s'embrase. Des passants sautent sur elle avec des vêtements pour étouffer les flammes. Ils diront plus tard à la police que, chose étrange, la victime n'a à aucun moment crié. En février 2013, Danny Van Sant, 65 ans, est retrouvé mort dans sa maison de Muldrow, dans l'Oklahoma, par son frère. Dani est retrouvée allongée sur le sol de la cuisine et à l'état de cendre, exception faite de la tête, des mains et des pieds. Les équipes de pompiers constatent que le feu n'a pas endommagé les meubles et les autres objets à proximité. Il n'y a aucun signe d'effraction, de lutte ou de toute autre cause de décès. La maison en bois est, elle, complètement intacte. Les autorités pensent que le retraité est mort d'une crise cardiaque, qu'il est tombé à terre sur une cigarette encore allumée. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas, d'après l'autopsie, inhalé de fumée, ce qui veut dire que le décès précède l'incendie. Enfin, en 2010, un homme de 76 ans est retrouvé brûlé vif dans le salon de sa maison au 64 Clareview Park dans le comté de Galway, en Irlande. Aux premières heures du 22 décembre 2010, son voisin le plus proche est réveillé par l'alarme de son détecteur de fumée. Il découvre qu'une épaisse fumée noirâtre s'échappe de la maison de M. Michael Faherty. Les pompiers découvrent dans le salon un homme allongé sur le dos. La tête est proche de la cheminée. Les seuls dommages constatés concernent le corps totalement carbonisé. Le sol juste en dessous et le plafond juste au-dessus. Le reste de la maison est lui intact. Les enquêteurs affirment que le feu de la cheminée n'est pas celui qui a brûlé le vieillard, car celui-ci, affirment les pompiers, n'est pas sorti de son foyer. Pas de traces d'effraction ou de combustible relevé dans la maison. Lors de son audience, en septembre 2011, le médecin légiste Kerrian McLaughlin déclare « Cet incendie a fait l'objet d'une enquête approfondie et je pense qu'il entre dans la catégorie des combustions humaines spontanées. Je n'ai jamais rencontré un tel cas au cours de mes 25 années dans le métier. » Ce que nous vous proposons à présent avec Anne, c'est de partager avec vous nos ressentis, nos réflexions sur le phénomène des combustions humaines spontanées. Moi, ce qui m'a tout de suite intéressé, c'est bien sûr de trouver une explication, si possible rationnelle, au phénomène. Mais honnêtement, toutes les théories évoquées dans les livres que j'ai lus, dans les documentaires que j'ai regardés, ne m'ont pas réellement convaincu. Le gros problème, et tu l'as bien évoqué, Anne, c'est comment un corps peut être totalement ou partiellement réduit en cendres, sans combustible et sans source extérieure de feu. C'est juste incompréhensible, surtout que le corps est composé majoritairement d'eau et que lorsqu'on regarde de plus près le procédé technique de la crémation d'un corps dans un four, il faut atteindre une température proche des 1000 degrés. Donc j'ai du mal à croire qu'un corps qui tombe sur une cigarette puisse au bout de quelques heures devenir de la poussière grisâtre. Je vous invite d'ailleurs à ce sujet à regarder le documentaire « Le feu secret » qui passe en revue avec plusieurs scientifiques toutes les théories concernant les combustions humaines spontanées. On évoque la théorie intracellulaire de John Hamer. En bref, ça ressemble à ça. Un dysfonctionnement entraînerait une dispersion d'hydrogène et d'oxygène dans les cellules qui, en contact avec de l'électricité statique corporelle, provoquerait une combustion interne. Impossible, dit Jean-Renaud Garel, professeur de biochimie à l'université Pierre et Marie Curie. Il est en interview dans le documentaire « Les feux secrets ». La théorie du suicide psychologique qui déclencherait une réaction en chaîne ne tient pas la route non plus. Le processus est encore aujourd'hui inconnu et ne repose sur absolument rien de concret. Autre possibilité qu'on a évoquée, les gaz intestinaux. Problème, c'est qu'ils sont combinés avec de l'eau à l'intérieur de notre corps, donc impossible que ce soit en interne que la combustion puisse se faire. Autre théorie souvent relatée, celle de l'alcool. Alors le problème, c'est que là, il faudrait qu'un adulte de 80 kg ingère au moins 50 litres de boisson alcoolisée à plus de 50 degrés pour que, éventuellement, il puisse y avoir un départ d'incendie. C'est juste impensable, c'est complètement irrationnel. Donc, on est encore aujourd'hui dans des spéculations. Des scientifiques font bien des recherches au niveau cellulaire et même au niveau atomique et subatomique. Mais pour le moment, rien n'a été démontré. La seule chose qui a été testée en laboratoire, c'est ce qu'on appelle l'effet chandelle. On l'appelle appelle aussi l'effet mèche ou l'effet bougie. C'est de la graisse animale qu'on a entourée ici d'un tissu. On l'a enflammée. La flamme est donc passée du chiffon à la graisse. La température est montée haut, très haut, à 1650 degrés. Puis après, il y a une lente combustion de plusieurs heures qui, elle, n'a rien de spontané. Et puis on pourra observer que la graisse et le tissu en fin de parcours sont totalement carbonisés. Mais cette expérience ne peut pas se faire sans un système d'allumage avec une source tierce de chaleur, ce qui n'a pas toujours été prouvé lors des enquêtes, puisque souvenez-vous, parfois pas de briquet, pas de bougie, pas d'allumette ou de cigarette. Donc oui, l'effet chandelle éclaircit certains cas, mais il ne les explique pas tous. C'est d'ailleurs une conclusion partagée par des professeurs de l'université d'Helsinki qui se sont penchés sur le mystère en analysant 12 publications de combustion humaine spontanée. Donc pour le moment, cela reste un grand point d'interrogation et on manque de tests expérimentaux pour valider scientifiquement une hypothèse plutôt qu'une autre. Quant aux articles des sceptiques, l'eau qu'ils apportent au moulin n'arrive pas à éteindre l'incendie. Le raisonnement qui revient le plus souvent, c'est que c'est totalement anecdotique, donc ça ne sert à rien de s'y intéresser. Moi, je trouve que c'est un petit peu léger au niveau de la contre-argumentation, surtout lorsqu'on souhaite s'attaquer sérieusement à l'un des plus grands mystères de l'humanité. Ceci étant, le paranormal d'hier et d'aujourd'hui sera sûrement le normal de demain, donc j'espère que bientôt, plus tard ou dans le lointain, eh bien on trouvera une explication tangible et reproductible à ce phénomène de la combustion humaine spontanée. Et toi, Anne, qu'est-ce qui t'a dans ton enquête, dans tes recherches, le plus marqué ou le plus interrogé ?
Alors moi, en me penchant sur l'histoire des combustions humaines spontanées, ce qui m'a frappé, c'est de constater comment la science, ou on va dire la science traditionnelle en tout cas, eh bien cette science se détourne de ce qu'elle ne comprend pas. On l'a déjà évoqué, jusqu'au milieu du 19e siècle, les combustions humaines spontanées font l'objet d'un chapitre dans n'importe quel manuel de médecine. Parce qu'on pense à ce moment-là pouvoir apporter une explication au phénomène, à savoir l'alcoolisme. Et puis, quand les connaissances évoluent et qu'on se rend compte que l'explication ne tient pas, les combustions humaines spontanées disparaissent purement et simplement des cursus de médecine. C'est même plus évoqué comme un phénomène inexpliqué, c'est juste évacué comme si ça n'existe pas. Pendant longtemps, le phénomène est traité comme une curiosité et il est laissé à la marge des pseudosciences. Ce n'est que récemment, depuis le début des années 90 et avec l'avènement de la théorie de l'effet mèche, que certains scientifiques entre guillemets sérieux, s'y intéresse de nouveau. Je vois deux explications à ce phénomène. D'abord, un problème de crédibilité, à l'image de Wilton Krogman, l'anthropologue intervenu en qualité de consultant sur l'affaire Marie Reaser. Le docteur Krogman s'est déclaré très impressionné par cette affaire dans un premier temps, et ses propos ont été ensuite très fréquemment cités par les personnes qui croient aux combustions humaines spontanées. Ça a plongé Wilton Krogman dans l'embarras. Pour lui, les combustions humaines spontanées sont de l'ordre de l'ésotérique et il a par la suite exprimé très clairement qu'il n'adhérait pas du tout à cette hypothèse et qu'il ne voulait pas que son nom et sa réputation y soient associés. Et c'est très étonnant quand on pense à ses premières déclarations, quand il disait que ce qu'il a constaté est absolument incroyable et qu'il n'avait aucune explication valide à apporter au décès de Madame Reaser. Et surtout quand il se déclarait très impressionné par l'incroyable destruction de son corps. La peur de passer pour un farfelu, chez Wilton Krogman, l'aura donc finalement emporté sur sa curiosité scientifique. En plus de ces problèmes de réputation, j'ai l'impression qu'il y a aussi une bonne dose de misogynie dans l'absence d'intérêt de la science « entre guillemets pure » pour les combustions humaines spontanées. En faisant des recherches pour cet épisode, je suis tombée sur un site qui concluait son article par ces mots « Le phénomène n'est pas très intéressant car il touche en majorité des vieilles femmes obèses ». Alors la plupart des chercheurs ne vont sans doute pas le formuler comme ça, mais je pense que cette remarque soulève un fond de vérité. Si le sujet des combustions humaines spontanées ne passionne pas, c'est aussi à cause du dédain que certains ressentent envers ces victimes, des personnes vieilles et seules, et souvent des femmes.
Nuit blanche, couleur 3.
Pour prolonger cette brusque flambée de combustion humaine spontanée, voici quelques références qui pourraient vous intéresser. On commence par le livre « Le feu qui vient du ciel » de Michael Harrison, sorti en 1980 aux éditions Albin Michel. La version originale, « Fire from Heaven », est sortie en 1976. Il s'agit d'une étude détaillée du phénomène qui se termine par l'élaboration d'une théorie pour en expliquer la cause. Une cause en rapport avec les forces énergétiques invisibles du corps humain. Autre ouvrage qui aborde le sujet, « Les feux meurtriers » de Jean-Pierre Fabre, publié en 1993 aux éditions Michel Lafond. Jean-Pierre Fabre, diplômé de Sciences Po à Toulouse et ancien officier de gendarmerie, nous relate avec de nombreux détails cinq histoires vraies de personnes dont la mort suspecte lors d'un incendie, qui l'est d'ailleurs tout autant, font irrémédiablement penser au mystérieux phénomène des combustions humaines spontanées. Le feu secret, de la combustion humaine spontanée au miracle de l'incendium amoris, est un livre du docteur Jacques Jaume, paru en 2006. Le médecin et thérapeute français s'aventure dans son ouvrage sur un territoire non pas scientifique mais mystique. L'incendium amoris, ou en français la vive flamme d'amour, se manifeste chez les croyants. Ils sont littéralement consumés d'amour pour Dieu. Et ce n'est pas seulement un sentiment, mais aussi une réalité. Le feu est parfois si intense qu'il brûle les vêtements de la personne, comme ce fut le cas pour Catherine Michel Courage au siècle passé. Voici ce qu'elle raconte.
Je suis sous l'action d'un feu intérieur qui me brûle et paraît vouloir me consumer. Dans la région du cœur surtout, ce feu est si intense que mon linge en est roussi. La personne qui lave mes flanelles s'en est aperçue et aux questions qu'elle m'a posées, je ne savais trop quoi répondre.
À lire, en anglais cette fois-ci, le livre de Jenny Rundles et Peter Hughes, intitulé simplement « Spontaneous Human Combustion », sorti en 1992 aux éditions Barnes & Noble. Les deux chercheurs tentent une approche du phénomène de combustion humaine spontanée la plus scientifique possible. Ils ont recensé plus d'une centaine de cas qui vont du XVIIe siècle à 1990 et ils tentent de détecter les similitudes parmi toutes ces affaires. Ils exposent les cas les plus emblématiques avant de passer en revue toutes les explications possibles, de la plus rationnelle à la plus ésotérique. Rundles et Hughes passent aussi un long moment à discuter de la théorie de l'effet de mèche et ils exposent avec force arguments ce qui ne les convainc pas entièrement dans cette explication. Après les livres, on passe au documentaire. Le feu secret est signé David Tessandier. Il est sorti en 2005. En voici le résumé officiel. En France, deux fois par an, la police scientifique se retrouve confrontée à ce phénomène étrange de la combustion humaine spontanée. Nous allons suivre plusieurs cas mystérieux, éclairés par les explications de gendarmes, de médecins et de proches des victimes de cas d'autocombustion. Les victimes sont retrouvées dans une posture qui n'indique nullement une tentative de fuite. Le corps est réduit à l'état de cendre blanche. On termine par un film fantastique signé Toby Hooper, le réalisateur de Poltergeist en 1982 et un petit peu plus tard de Massacre à la tronçonneuse numéro 2. En février 1990, il sort Combustion spontanée qui raconte l'histoire de Brian et Peggy Bell. Ils sont les sujets d'une expérience visant à mettre au point un vaccin capable d'immuniser les humains contre les effets radioactifs de la bombe nucléaire. Devenu adulte, leur fils constate qu'il a tendance à prendre feu de façon inopinée, surtout lorsqu'il s'énerve. Et pour ne rien arranger, les gens deviennent autour de lui des torches humaines à son contact. Hélas, des effets spéciaux façon téléfilm bon marché, un scénario quelque peu embrouillé, font de ce long métrage un pétard mouillé.
Une blanche, couleur 3.
Il est temps à présent d'arrêter de jeter de l'huile sur le feu et de refermer le dossier brûlant des combustions humaines spontanées qui, semble-t-il, ne soit pas encore prêt à livrer tous ses secrets. À la réalisation de cet épisode, un réalisateur tout feu tout flamme, Valère Veilla. Au micro, deux cerveaux carbonisés, Anne Flamand et Michael Marquet. Nuit Blanche est disponible sur votre application de podcast préférée, Deezer, Spotify et sur Apple Podcasts. Vous pouvez aussi nous écouter sur SoundCloud, sur l'application de Couleur 3, rubrique podcast, et sur rts.ch, rubrique radio podcast originaux. À bientôt pour une nouvelle Nuit Blanche, une Nuit Blanche à écouter de préférence avec la lumière allumée, parce qu'on ne sait jamais.